Cola,
vin
et compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Lecteurs et lectrices, auditeurs et auditrices, bonsoir. C'est le troisième chapitre de ce troisième tome de Polar Vin et Compagnie. Et ce soir, je suis avec le très lumineux Florent.
Bonsoir.
Salut Florent, avec un numéro un peu spécial, on pourrait dire, un spécial Maya Thirier que tu as découvert.
Absolument, j'ai découvert Maya Thirier, mais pas vraiment découvert, puisqu'elle a été éditée quand même par une éditrice qui, elle, a vraiment découvert Maya Thirier.
Et qui a fait le bon choix.
Exact.
Alors, Maya Thirier, on va en parler parce qu'effectivement, elle a écrit un livre.
Sans Éden, chez Emmanuel Colas.
Et Sans Éden, un thriller, tu le qualifies de thriller. Avant d'en savoir plus sur Maya Thirier, on va directement écouter l'interview que tu en as fait.
En 1455, Johannes Gutenberg a imprimé la première Bible.
Mais ne recommence pas, hein, sinon...
Je vais briser tes os! Je vais boire ton sang!
Et toujours comme ça, la première fois.
Nous accueillons avec grand bonheur Maya Thirier pour Sans Éden, roman édité chez Emmanuel Colas. Bonjour Maya.
Bonjour et merci beaucoup de m'inviter, ça me touche beaucoup, voilà.
Eh bien, on est très très content que vous ayez accepté l'invitation, donc bienvenue dans Polar Vin et Compagnie.
Merci.
Alors, je vais pas y aller par quatre chemins, Maya, je vous appelle Maya d'abord,
c'est comme ça, c'est plus simple. Oui, très bien, oui.
Bon voilà, alors j'ai dévoré votre roman, un roman tendu et poétique dont la trame nous entraîne dans les questionnements de Gabriel et de Tom.
Oui.
Alors, j'avais envie de résumer l'histoire, mais je serais curieux de savoir comment vous résumeriez en 4-5 phrases ce roman.
Alors, je suis pas bonne pour résumer. J'étais déjà pas bonne quand j'écrivais des scénarios pour faire ces fameux pitchs qu'on est supposé faire pour convaincre les commissions de subvention, pour convaincre les producteurs. J'étais déjà pas très bonne pour ça en tant que scénariste et en tant qu'auteur de romans non plus. Moi, en général, je dis simplement que c'est une histoire d'amour, vraiment une histoire d'amour entre un père et son petit garçon, et qu'ils se retrouvent dans une maison qu'ils n'ont pas choisie, que le père n'aime pas du tout, en attendant la mère dont il s'est séparé depuis longtemps maintenant, mais qu'il aime encore follement. Et la mère tarde, n'arrive pas, et tout part en vrille. Voilà, en général, je me contente de dire ça.
Eh bien, je trouve que c'est un excellent résumé. J'ai envie de dire à nos auditeurs qu'ils ne connaissent pas en fait cette histoire qui pourrait... L'histoire de Tom Gabriel sans Éden pourrait être une histoire finalement assez classique de disparition, de mystère, tout ça. Mais la particularité, c'est que vos personnages sont très attachants, très sensibles. Et finalement, vous en faites de cette histoire qui pourrait être classique une histoire différente. Alors, ma première question, à votre avis, peut-on aimer à la folie ?
Peut-on aimer à la folie ? Moi, ça m'évoque tout de suite un vieux film de Romère. C'est un personnage qui demande ça à un autre personnage et qui lui dit « Mais non, je n'ai jamais aimé à la folie puisque je ne suis pas folle. » Et l'autre personnage est consterné en disant « Bah, en gros, t'es passé à côté de ta vie, quoi. » Et donc, est-ce qu'on peut aimer à la folie ? Je ne sais pas. Je pense qu'on peut être fou et aimer. Donc ça, et encore une fois, on peut, c'est ce que je dis souvent, être fou, c'est un état transitoire, c'est pas quelque chose qui définit quelqu'un, ça peut être un passage dans sa vie, ça peut être un moment, un état qu'on rencontre, mais ça va pas définir la personne toute sa vie, mais on peut en effet vivre un passage à vide, c'est à minima ou franchement un passage délirant en aimant. Mais pour aimer quelqu'un, il faut quand même être dans une certaine lucidité. Ouais. Sinon, c'est soi-même qu'on aime ou soi-même qu'on déteste, mais sinon, c'est entre soi et soi. C'est pas, ça concerne plus l'autre.
Et en écrivant ce roman, vous vouliez écrire sur la folie, sur l'addiction, sur la propreté?
Alors, la propreté, je suis contente que vous posiez cette question, parce que, en fait, la propreté, donc pour les auditeurs, évidemment, qui n'auront pas lu le livre, je pense que ce seront les plus nombreux, le personnage principal est un peu particulier, donc Gabriel, c'est quelqu'un d'un peu singulier, dont on ne comprend pas bien si son excentricité est juste de l'excentricité, ou si, ou s'il y a des vrais problèmes psychiatriques, on va dire. Et donc lui, il adore faire le ménage. Et c'est vrai que ça, cette passion pour le ménage, qui est une passion théorique, hein, qui est pas du tout une passion pratique chez moi. Mais c'était à un moment donné où j'avais fait à la fois une pneumonie et une grosse décompensation asthmatique. C'était vraiment très embêtant. J'arrivais plus à respirer en fait. Donc ça a duré des mois. Et c'est assez anxiogène hein, d'être en hypoxie tout le temps, de pas réussir à bien respirer. C'est assez anxiogène. Et le seul truc qui me détendait, c'était de lire un livre d'un moine zen sur le ménage. Ah. Et c'est un livre qui était sorti chez Philippe Pitié. Et franchement, le moine zen en question, c'est une tête à claque, il est complètement exaspérant. On n'a pas du tout envie de lui ressembler, il fait tout parfaitement, etc. Mais il n'empêche que son livre sur le ménage me détendait. Parce que quand on n'arrive pas à respirer, on a besoin d'être dans un endroit propre. On a pratiquement l'impression, on a presque besoin de vivre dans un Tupperware, si vous voulez, quoi.
Ouais.
Et donc, du coup, à ce moment-là, donc, je me suis beaucoup inspirée de ce livre pour décrire la passion du ménage, la passion de Gabriel pour son ménage, tout en montrant que quand on est fragile, quand on est dans une passe de fragilité psychique, et ben, en fait, ce truc complètement superficiel peut être structurant, en fait. Ce truc qui est à la fois pénible, sans intérêt, et très humble, finalement, bah, les pensées asiatiques nous rappellent que ces choses très humbles du quotidien, ça peut être structurant. Et ça peut aider à passer un quotidien qui est devenu invivable.
D'accord, donc c'est de fait, c'est plus un roman sur la propreté. Mais je suis très content que vous m'expliquiez un peu la démarche autour de ça, parce que quand on lit le livre, c'est un phénomène intriguant. Par rapport au personnage principal, quoi.
Ouais.
Mais pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est vrai que dans ce roman, tout est à la fois clair et mystérieux. D'ailleurs, on passe du visible à l'invisible.
Ouais.
Vous croyez aux fantômes, personnellement ?
Non, j'y crois pas. Et c'est vrai que je suis contente que vous me posiez cette question, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens très bien, j'ai envie de dire, qui y croient. Mais moi, non. Moi, je ne crois pas aux fantômes, mais je passe mon temps à en parler, que ce soit dans des scénarios qui ont été portés à l'écran ou pas, hein, ou des scénarios que je n'ai jamais réussi à faire produire, ou même dans mon roman que je n'ai pas réussi à publier. Mon premier roman, il était beaucoup de questions de fantômes, parce que je pense que c'est l'une des formes que peut prendre justement les obsessions qu'on peut avoir. Que peuvent prendre les obsessions qu'on peut avoir, les angoisses qu'on peut avoir. Et c'est vrai que j'y crois pas, mais pour moi, c'est l'une des formes artistiques qui représente le mieux ce que c'est qu'avoir des obsessions et des angoisses. Par exemple, ouais. Je suis très passionnée par les yokai japonais. Enfin, je trouve que c'est des choses qui nous permettent quand même de comprendre certaines formations psychiques bizarres dont on est tous plus ou moins faits quand même.
Alors, c'est vrai qu'en parlant de ces fantômes, votre roman m'a fait un petit peu penser à certains romans ou passages de Stephen King. Alors, je ne sais pas si j'ai raison. King fait partie de vos inspirations ou vous avez d'autres auteurs qui vous influencent quand vous écrivez ?
Alors, j'ai énormément d'auteurs qui l'influencent, mais tellement que je peux même pas les citer, parce que je pense que ça vient tout seul. Enfin, parce qu'en fait, comme je suis assez obsessionnelle, je relis beaucoup. Donc, il y a certains romans que j'ai lus plein de fois, et au bout d'un moment, ça m'est devenu naturel. C'est comme, donc je sais même plus quelles sont mes influences, mais j'en ai vraiment beaucoup. Stephen King, j'en ai pas lu beaucoup. Moi, j'avais adoré Carrie. Ça, c'est vraiment pour moi un livre très important. Mais j'en ai pas lu tellement. J'ai lu, évidemment, Misery, que je trouve génial. Enfin, je trouve ces histoires géniales quand je les ai lues, mais j'en ai pas lu beaucoup.
Ouais. Et votre histoire est géniale. D'ailleurs, on se demande aussi de vos personnages qui est le plus fou. Marc-Antoine, il y a Joao,
ah, oui.
Bon, Tom, Gabriel, mais comme je le disais, tous les personnages sont très attachants. Ouais. Parce qu'en 200 pages, vous arrivez à aborder des thèmes qui les touchent tous. Alors, les thèmes absolument variés, invraisemblables, la cuisine, la famille, ouais, l'amour, la mort, le ménage, l'herbe qui se fume, etc., ouais, etc. Tout en gardant une importance, je dirais, presque équivalente à tous les personnages, même si, évidemment, ça tourne autour de la relation de Tom et Gabriel.
Oui.
Dans ce sens-là, je trouve que vous n'avez pas réinventé le thriller, mais je pense que vous avez écrit un vrai roman à frissons, avec une petite dimension poétique assez unique. Et je pense ici à la technique du daim.
Ouais.
Qui vous a conté ce conte qui est conte chinois, non
c'est, Oui, c'est un conte chinois, tout à fait. Le daim mangeur de tigre. Et en fait, c'est vrai que j'aime beaucoup les contes. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est des contes pour adultes. C'est mon ambition, écrire des contes pour adultes, en fait. J'adore cette forme du conte. Alors moi, bien sûr, c'est un roman, donc c'est plus complexe qu'un conte. Mais le conte, donc j'en lis beaucoup. Où j'en relis beaucoup, voilà. Et celui-là, c'est un conte chinois que j'ai lu à l'école des loisirs. Donc c'est un conte traditionnel qui a été recueilli par quelqu'un dont j'ai oublié le nom. En tout cas, c'est publié à l'école des loisirs, si mes souvenirs sont bons. Et oui, c'est un très beau conte. Et je trouve que comme beaucoup de contes, il a aussi une fonction d'utilité. J'ai toujours lu, j'ai toujours aimé lire, en tout cas, les contes comme des manuels de survie pour les enfants. Bien sûr, depuis quelques années, on parle beaucoup plus de toutes les horreurs qu'un enfant peut subir et de à quel point c'est un être démuni, sans pouvoir, et que voilà, c'est des personnes qui, par essence, sont démunies, à la merci de tous, et ça. Mais je trouve que les contes, c'est quelque chose qui nous permet de leur en parler, de les prévenir sans les écraser sous une réalité qui serait qui deviendrait irrespirable. Vous voyez,
ouais.
C'est ce que j'aime dans les contes, c'est une façon de les alerter, mais pas de façon littérale pour ne pas leur ôter leur envie de vivre dans le monde.
D'ailleurs, je pense que c'est une des forces de votre roman. Les événements sont assez forts dans l'histoire, mais on a toujours un regard un peu extérieur, comme justement dans un conte où on peut pas d'un coup comment devenir le petit poussé, vous voyez ce que je veux dire. Je vous vois un peu comme une spectatrice, quasiment, de cette histoire. Vous voyez, par exemple, Gabriel a toujours un plan. C'est génial, c'est d'ailleurs assez drôle. Est-ce que vous aviez un plan aussi quand vous avez écrit Sans Éden? Vous avez travaillé comment?
Alors, je n'ai pas de plan, mais par contre, j'ai une courbe. C'est-à-dire, je planifie pas, mais par contre, je sais... C'est un réalisateur Luc Moulet, c'est un réalisateur qui faisait des films avec très peu d'argent. Mais quand je dis très peu, c'est vraiment très, très peu. Donc, certains l'appelaient Moulet bout de ficelle parce qu'il faisait des films avec trois fois rien. Et il donnait comme conseil au réalisateur de ne jamais commencer un film avant d'avoir le dernier plan du film en tête. Et donc ça, moi, c'est un conseil que j'ai gardé. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire Sans Éden, j'avais le dernier plan du livre. Dans le sens, pas au sens de planifier, mais au sens de cette image sur le livre. Ben ça, c'était dès le départ. Et ce que j'avais dès le départ aussi, c'était la courbe. Je savais, alors c'est très difficile d'en parler sans spoiler, mais je savais qu'à un moment donné, en fait, je voulais qu'on glisse d'un genre à l'autre, une espèce de glissement qui se fasse, et qu'à un moment donné, on tombe dans un puits.
C'est tout
ça,
à
je
fait
le
ça.
Savais. Ouais. Voilà, mais ça c'était prévu.
D'ailleurs, je crois que vous aviez dit, je pense que c'est pour une librairie à Bordeaux, je crois, j'ai vu un petit extrait d'une interview, vous avez dit c'est un roman de genre, mais je vous dirai pas quel genre.
Et je
trouve que c'est ça, quoi. C'est-à-dire c'est un roman à frissons, mais effectivement, il y a un changement de perspective. Enfin, moi j'ai trouvé ça...
Ouais.
Très, très fort. D'ailleurs, je trouve que vous avez énormément de talent et je me demande pourquoi vous avez décidé de faire un roman, un thriller en fait, et pas un roman plus classique ou de la poésie ou je ne sais quoi, ou des haïkus.
Alors en fait, parce que déjà alors non, la poésie c'est vraiment pour moi, j'ai un grand complexe vis-à-vis de la poésie, parce que j'en lis très peu parce que je sais pas. C'est comme si j'avais l'impression que j'arrive pas bien à comprendre. Un jour, je me décomplexerai là-dessus et j'en lirai davantage. Mais pour l'instant, j'en lis peu, donc j'en écris pas du tout. Par contre, non, écrire un thriller, mais moi, je pense que la peur, c'est une émotion pour moi qui est très importante. c'est, je pense que je suis une des plus grosses trouillardes que je connaisse, mais vraiment à plein d'endroits différents. En fait, c'est quelque chose à quoi je réfléchis souvent. Pourquoi est-ce que je suis trouillarde à ce point? Et je pense que d'une certaine façon, la peur, enfin avoir peur de tout, c'est quand même un progrès par rapport à l'angoisse. C'est-à-dire que l'angoisse, c'est diffus, c'est compliqué. Donc ça, ce serait plus un roman normal, on va dire.
D'accord.
La peur, ça permet de travailler avec ça en donnant une forme plus... Enfin, finalement, c'est plus rassurant. C'est-à-dire Vous voyez ce que je veux dire?
Je vois tout à fait. D'ailleurs, j'avais envie de vous dire, mais alors, si les zombies débarquent, qu'est-ce que vous faites? Oui. Bon, ça va faire un peu private joke, mais je conseille à tout le monde d'acheter le livre. Comme ça, ils pourront rire. Mais qu'est-ce que vous faites si les zombies débarquent? Qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait? Je peux pas répondre à cette question sans spoiler le livre.
Donc
mais
on n'en parle pas. Ça incitera les
lecteurs. Si ça pouvait être des zombies, à la limite, peut-être qu'on se débrouillerait mieux.
Ouais. Est-ce que vous avez de nouveaux projets littéraires après ce...
Oui, je suis en train de... Déjà, j'aimerais bien quand même reprendre un tout petit peu mon premier roman, puis l'éditer, parce que je pense que c'est dommage... qu'il n'ait pas trouvé preneur jusqu'à présent. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire. Et puis sinon, oui, tout à fait, je suis en train d'écrire un nouveau roman. Et justement, ce qui me chiffonne pour l'instant, c'est que je voudrais encore travailler autour de ces frissons dont vous parlez, d'une espèce d'enquête, de quelque chose comme ça. Et je trouve pas encore la bonne histoire, quoi. J'ai mes personnages, j'ai l'ambiance, j'ai le lieu, je veux que ça se passe à Montpellier. Enfin, j'ai pas mal de trucs, mais j'ai pas encore vraiment ce truc d'enquête, de livre de genre, en fait, auquel je tiens décidément.
Ouais. Vous n'avez pas le plan de fin en tête, quoi.
J'ai pas le plan de fin en tête, voilà, c'est ça, exactement.
Notre court entretien va s'achever, malheureusement. Donc,
mais en tout cas, merci infiniment pour votre lecture. Et je suis très contente quand vous dites que c'est à la fois tendu et poétique. C'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Et puis, comme je suis très lente, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur mes textes. Donc, je suis contente que vous ayez lu ça de cette façon-là.
Alors, avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous suggérer un vin et un morceau de musique pour accompagner la lecture de Sans Éden?
Oui, pour accompagner la lecture de Sans Éden. Alors, sur le vin, moi, j'aime bien boire, mais je suis très mauvaise en vin. Je connais pas les noms, je sais pas en parler. Je me laisse généralement guider par les autres. Mais j'ai un vin qui était très aimé de mon grand-père, et je crois que c'est celui que je cite dans Sans Éden, qui est le Gigondas. Et ça, c'est assez marrant parce que c'est presque un souvenir d'enfance, alors qu'on ne faisait pas boire les enfants chez mes grands-parents. Mais il n'empêche que je suis attachée à ce vin comme un peu ma Madeleine de Proust, que lui trempait dans du thé. Moi, c'était du pinard, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je propose le Gigondas. Et comme morceau de musique, c'est un groupe dont j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il était si peu connu. C'est French Cowboy, avec un morceau qui, pour moi, est un tube, que peu de gens connaissent, un tube quand même, et qui s'appelle End of the Story, et je pense que ça fait écho aussi à...
Absolument.
À mon roman.
Oui. C'est du rhythm and blues, je pense, French Cowboy. Non, c'est ça? Du rock?
French Cowboy?
Oui.
Ah non, c'est... Bah, je vous laisse découvrir.
On découvrira à la fin de l'émission. Alors un petit conseil à nos auditrices, auditeurs, n'hésitez pas, foncez à la librairie du coin, achetez Sans Éden de Maya Thirier chez Emmanuel Colas, et là vous comprendrez enfin pourquoi les fous sont des papillons. Voilà, merci mille fois Maya Thirier.
Absolument, merci beaucoup à vous. Merci.
Et merci aux éditions Emmanuel Colas de vous avoir édité, pour leur travail en général.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir, à très bientôt, j'espère.
Et oui, à très bientôt, j'espère. Et on ne croyait pas si bien dire, enfin tu ne croyais pas si bien dire, puisque cette interview a été réalisée il y a un mois, jour pour jour.
Exact.
Et que tu as des choses à nous annoncer et à nous préciser sur Maya Thirier.
Oui, je vais le dire aussi. Un mois, jour pour jour, après l'avoir interviewée, Maya Thirier vient à Millau. Elle sera là le 21, vendredi 21 novembre, à la librairie Syllab, rue du Mandarou. Elle y sera à partir de 18h. pour vous voir et discuter avec vous de son livre et répondre à vos questions éventuelles, nombreuses, j'en suis sûr. Et le samedi 22 au matin à 10h pour une projection d'un de ses courts-métrages et un atelier d'écriture qui suivra. Donc à 10h au Créa, 10h tapante, ne ratez pas ça, ça va être une sacrée expérience.
Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, elle ne le dit pas dans l'interview, puisqu'effectivement, tu l'as interviewé sur son roman, mais c'est avant tout une scénariste.
C'est une scénariste et une réalisatrice aussi sur des courts-métrages, et c'est sa première passion. Donc, effectivement, Sans Éden, c'est un primo-roman, comme la plupart des romans dont on fait des interviews dans notre émission. Donc, elle a réalisé deux courts-métrages et on en verra un samedi matin, le 22 novembre à 10h au Créa.
Et qui sera donc suivi par un petit atelier d'écriture de pitch animé justement par Maya Thirier.
Oui, ouais, ce sera une bonne surprise, elle prépare ça, on va avoir un sujet très intéressant à traiter, je pense. Ça vaut le coup de venir, en tout cas.
Et l'après-midi
Fin de journée, direction Saint-Afrique, à la librairie Les Feuilleuses, une toute jeune librairie, mais qui n'a peur de rien. Et les libraires des Feuilleuses accueillent, elle aussi, Maya Thirier, à 18h à Saint-Afrique, le samedi 22 novembre.
On va écouter ces fameux French Cowboys qu'elle nous a conseillé à écouter dans The End of the Story. Mais avant, donc, je rappelle qu'il va y avoir la lecture d'une nouvelle qui a été primée lors du concours de nouvelles 2025 de Polar Vin et Compagnie. Aujourd'hui, c'est Hélène qui nous lira une nouvelle de Patrick Pierre qui s'appelle « Allez les verts ». Donc, à la fin de l'émission, une nouvelle à écouter. Mais tout d'abord, « The French Cowboy, The End of the Story ».
Thank you. y a trop de gens qui savent pas ouvrir une bouteille de vin.
Ouais, eh ben, le pinard, c'est pas interdit que je sache.
On retrouve Lionel à Intercave à Millau, ben parce qu'on aime bien Lionel, d'une part parce qu'il s'y connaît bien en vin, et aussi parce que c'est un ancien de la radio, et puisqu'il a été bénévole à une radio amie qui est Radio Saint-Afrique. Salut Lionel.
Salut William, et oui, j'ai été bénévole à Radio Saint-Af avec une mission pendant quelques années. C'était Base Travel, voilà, pour ceux qui se souviennent.
Émission musicale.
Ouais, tout à fait. Émission de musique du monde, et voilà.
Alors, les auteurs, tu commences à en connaître quelques-uns, en tout cas de nom, tu les as pas tous lus, mais là, la dernière, elle s'appelle Maya Thirier, elle vient d'écrire son premier roman, son premier polar, qui s'appelle Sans Éden, et elle s'est attachée à un vin que buvait son grand-père, une sorte de Madeleine de Proust, comme elle dit elle-même, c'est le Gigondas. Alors effectivement, Gigondas, ça parle, c'est une petite commune proche des... Enfin, moi qui suis un peu randonneur, proche des dentelles de Montmirail, pas très loin du Mont Ventoux, tout ça. On est dans la vallée du Rhône.
Tout à fait, voilà, Gigondas, ouais, petit village de la vallée du Rhône. Plutôt, dans le vin, on divise la vallée du Rhône en deux, hein, Rhône Sud et Rhône Nord, donc Rhône septentrional et Rhône méridional, où Gigondas c'est plutôt au sud. Et bah, Gigondas, c'est un peu une des stars, c'est un peu le petit frère de Châteauneuf, en gros. Hein. C'est, voilà, dans les grandes appellations de cette vallée du Rhône. Ouais. Et donc, Gigondas, comme le Châteauneuf du Pape, le cépage roi, c'est vraiment le grenache. Donc, des vieux grenaches, souvent, hein, qui sont, comme tu l'as dit, dans un environnement magnifique. Quoi. C'est dentelle de Montmirail, voilà. Donc, un joli terroir. Il y avait des oliviers avant et du coup, ils ont planté des grenaches. Donc, dans le Gigondas, dans l'AOC, il y a trois cépages. GSM, pour se souvenir, tous les côtes du Rhône, hein, pratiquement, à part Côte-Rôty et Châteauneuf, il y a des exceptions, mais la plupart des côtes du Rhône, vous retenez donc Grenache, Syrah, Mourvèdre.
GSM, Grenache, Syrah, Mourvèdre. Voilà. Je révise.
Voilà, trois cépages. Qui donne souvent des vins Gigondas, c'est des vins assez charpentés quand même, qui ont du caractère, des vins avec un potentiel de garde, hein, au moins voilà 10 ans, ça leur fait pas peur, et des vins charpentés, puissants, mais aussi avec une certaine finesse sur le fruit, les épices, c'est le grenache donne ces caractéristiques là.
Alors, l'éternel accord vin mais
accord mais et vin, eh bien, Gigondas, souvent, on peut le mettre facilement avec du gibier, dans l'Aveyron du Lièvre, hein, Lièvre à la broche, avec le flambadou, là, sans problème, avec du sanglier, avec souvent des viandes en sauce, ça marche bien. Et moi, perso, j'aime bien avec une bonne côte de bœuf, simple, voilà. Je trouve que ça va très bien.
Marinade avec ou c'est dommage?
Marinade de quoi, la côte? Non.
Non, non, je pensais au sanglier. T'as cité le sanglier. Marinade Gigondas, c'est le luxe.
Ouais. Quand même, non, franchement, non. Un petit côte du Rhône à 10 euros suffira parce que Gigondas, on est quand même dans des tarifs. Moi, par exemple, en cave, on commence à 20 euros, un peu plus de 20 euros. Quoi. 20 euros, et pour avoir des trucs vraiment exceptionnels, on est à 30-40. Mais en même temps, quand on voit le prix des châteaux neufs qui sont on commence à 40, 60, ça permet d'avoir un peu une idée de ce qu'est le Château Neuf du Pape. Voilà.
Ok, bah écoute, on te remercie pour ces conseils. Et puis, Maya Thirier va venir à Millau le week-end prochain, le 21 et le 22. Donc, écoute, si tu as l'occasion de venir la rencontrer, tu pourras la conseiller et lui parler de Gigondas. Ouais,
je vous ferai une bouteille de Gigondas, on va en boire un verre ensemble.
Super, merci Lionel. Voilà, on vient d'écouter les conseils à la fois musique et vin de Maya Thirier. On rappelle le programme du week-end du 21-22. Donc, Florent, on t'écoute.
Maya Thirier, le 21 novembre, vendredi, 18h, à la librairie Syllab à Millau. Et au Créa, le samedi 22 novembre, à 10h, projection d'un court-métrage et atelier d'écriture. Et le samedi 22, toujours à 18h, librairie Les Feuilleuses à Saint-Afrique.
et les ateliers d'écriture, il va y en avoir de façon régulière, puisque l'association Polar Veille Compagnie va proposer cette année, suite au succès remporté par le concours de nouvelles, des ateliers d'écriture ouverts à tous, sous condition, une condition toute simple, c'est d'être adhérent, et l'adhésion c'est 12 euros pour l'année. Alors ces ateliers d'écriture se dérouleront a priori une fois par mois ou toutes les quinzaines suivant la demande. Ça se passera au Créa de Millau. Ils seront animés le plus souvent par des membres de l'association, ce sera un peu un atelier en autogestion, mais pourront également recevoir l'expertise d'auteurs invités, c'est-à-dire ben là voilà, c'est l'opportunité avec Maya Thirier de travailler par exemple sur les scénarios. Donc ces ateliers consisteront en des jeux d'écriture sous contrainte imposée de manière ludique et interactive entre les participants. Interactivité sous la forme de remarques, de critiques et de conseils bienveillants, bien sûr, ayant pour but l'amélioration des textes et des façons d'écrire de chacun. Il n'y a pas de limite d'âge et le premier atelier se déroulera le samedi 29 novembre à 10h au Créa de Millau. Ce sera le lancement, donc lors de ce premier atelier, vous pourrez exposer vos souhaits, les membres de l'association donneront leur avis sur et leur projet aussi. Donc voilà, ça va être un moment d'échange pour définir le contenu de ces ateliers. Ce troisième chapitre du troisième tome de Polar Vin et Compagnie se termine. Donc restez à l'écoute puisque après le générique, Hélène vous lira la nouvelle Allez les Verts écrite par Patrick Pierre. Eh bien, merci Florent pour cette découverte avec Sans Éden de Maya Thirier.
Merci à toi, William.
Donc, on vous souhaite nombreux les week-ends du 21 et 22. Et puis, retrouvez-nous sur radiolarzarc.org.
Voici la nouvelle de Patrick Pierre. Allez les Verts. Avec une bande de bras cassés pareil, pas étonnant que ça ait tourné à la béchamel infernale. Enfin, quand je dis bras cassés, c'est façon de parler. Deux balèzes chez qui le tour de biceps dépasse largement le QI, plus moi, et Niven. Chez lui, pas de culture physique, mais une culture générale plutôt spéciale. Un livre, un seul. Un recueil des 100 poèmes les plus célèbres de la littérature française qu'il connaît par cœur. Hélas, des années de calottes, mornifles et mandales les plus diverses ont mélangé tout ça pour en faire une salade décomposée du plus haut comique quand on connaît les originaux. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans l'équipe. Monsieur a donc des lettres, un peu dans le désordre, mais les autres l'appellent quand même Niven. À cause du cerveau, le film avec David Niven. Les autres, c'est d'abord Robert, dit Bob. Videur de boîtes et de canettes, le seul d'entre nous avec un salaire. Pas gros, mais régulier. Ensuite, il y a Jules, ou Julos, résident intermittent de diverses institutions de l'État, dont plusieurs maisons d'arrêt pour trafics illicites et foireux. La bande des quatre, donc. Bob, Julos, Niven, et puis moi, Nathan. De retour de 8 semaines de séjour aux frais, et même aux frais de la nation. Rien de grave, rien de glorieux, rien de joyeux. Un mauvais moment à passer qui vient de se terminer. Les 3 autres m'attendent à l'arrêt de bus. Les 2 épais m'écrasent à suffoquer, une larme au coin de l'œil. Niven, lui, m'assomme d'un tonitruant, heureux qui, comme Alice, a fait un bon voyage. Qui ne fait rire que moi. Pas question de rentrer tout de suite, bien sûr. Détour obligé par l'appart de Bob. Le frigo est chargé, bière, saucisson et chips. Les potes ont des goûts simples. Pour moi, tout est bon après 2 mois de cantine. On ne me pose pas de questions, mais on raconte. La vie trépidante dans une ville de 15 000 habitants en pleine province profonde, ça ne remplit pas des heures, mais ça détend. Après quelques bières et une superbe nivennerie, j'ai plus de souvenirs que si j'étais de 1000 ans, Bob dégage quelques coupelles et claque un journal sur la table basse. Je suis le seul à sursauter. Les trois autres me regardent comme si j'allais pondre. Nathan suspend ton bol. Visiblement, ils attendent quelque chose. Je regarde la une. Au stade, ce samedi, fête sous haute surveillance. Le silence est profond, comme mon incompréhension. On a un plan. Quoi ? On va aller casser du fouteux pour fêter mon retour ? Merci bien. Mais non, ajoute Julos, on a un vrai plan. J'y ai pensé quand le derby a été annoncé. Les deux équipes ne peuvent pas se saquer. Les fans encore moins. Si tu ajoutes les casseurs, bonjour l'ambiance. Donc tous les flics seront de service. Même l'hypergéant a les chocottes, il ferme pour le week-end. Trop peur. Par contre, dans la galerie commerciale, certains magasins ouvrent quand même. Entre autres, le carrousel aux bijoux. Alors là, j'explose. Mélange de rire et de colère. Non mais j'y crois pas. C'est ça votre plan ? Des fouteux et des hooligans partout, les flics sur les dents, avec des renforts probablement. Et c'est ce jour-là que vous choisissez pour braquer une bijouterie. T'énerve pas, dit Julos. J'ai pensé à tout. Rigole pas. Effectivement, les flics seront presque partout, en ville, autour de la gare, près du stade. Les fans doivent être canalisés depuis la gare. Ça va occuper du monde. Nous, on reste au centre. On prend la température. Quand c'est bien chaud, s'il le faut, on aide un peu. Une poubelle, une vitrine. Puis on se casse et on monte sur la colline. Supermarché fermé, galerie vide. Tout le monde sera en ville ou à la plage pour éviter le ramdam. J'ai parlé à Cécile, l'employée du carrousel. Je la connais un peu. Elle sera toute seule de service. Cécile de Géant n'empêche pas de voler. Incroyable. Citation et jeu de mots. Baudelaire, l'albatros, dis-je ? Non. À son regard insondable, je comprends qu'il n'y a pas eu de miracle, que Niven a sorti ça sans savoir. Dommage. Une ou deux questions comme ça. On y monte comment sur la colline ? Sur place, on fait quoi ? Et après, on se tire comment ? Je n'aurais pas dû demander. Maintenant, ils vont s'imaginer que je commence à croire à leur plan débile. En même temps, je te dis, on a tout prévu. J'ai piqué une bagnole il y a 3 semaines. Elle est dans un garage privé, loué au mois. Même que ça coûte la peau des yeux. Bon Dieu, Niven, les expressions aussi. On a piqué 2 pistolets d'alarme sur des bateaux. Les cagoules, on les avait déjà. Avec des étiquettes à vos noms ? Te fous pas de nous, Nathan. C'est du beurre, je t'assure. Je ne sais plus ce qui m'a pris. La fatigue, la joie de revoir mes potes. Malgré tout, les semaines d'inactivité en tôle, les humiliations en plus, l'envie d'une bonne affaire qui nous mettrait à l'abri quelque temps. Bref, le samedi à 10h, on est tous les 4 en terrasse, panachés plutôt que bière pour garder les idées claires. La voiture attend dans une rue pas trop loin. Une Fiat discrète, même avec 2 malabars dedans, de la boue partout, entre autres sur les plaques d'immatriculation. Certains fans ultra ont dû prendre le train très tôt pour éviter les fouilles et le tunnel policier jusqu'au stade. Des grilles se ferment, des clients paient en vitesse avant de partir avec leur môme ou leur cabas. Des poubelles oubliées ont commencé à valser, des bouteilles à voler, on n'aura même pas besoin de s'y mettre. Un regard échangé, je paye. Direction la voiture. Derrière nous, des cris. Une vitrine éclate. J'entends une sirène. La voie est libre. Nous partîmes en 500. Niven, tu fatigues. Le parking du supermarché est presque entièrement vide. 3 emplacements réservés au personnel sont occupés. Pour moi, ça fait déjà trop, mais comment leur faire comprendre à ces gosses ? Bob se gare au plus près, une place pour handicapés. Mais personne ne nous cassera les pieds pour ça aujourd'hui. Sa mission, nous attendre et empêcher aussi discrètement que possible d'autres clients d'entrer. Le carrousel aux bijoux est le 3e commerce à droite. Tous les autres de ce côté sont fermés, un autre est ouvert au fond de la galerie. Pas de temps à perdre, si des clients entrent ou sortent, ils passeront forcément par ici. On enfile les cagoules, Julos et moi tirons nos pistolets d'alarme. Parlez le moins possible. Notre accoutrement, tout en noir et cagoulé, ne laisse aucun doute. J'espère surtout que le poète ne va pas nous sortir un verre de son cru. C'est lui qui porte le sac. La gamine derrière le comptoir lève la tête, son sourire professionnel fond immédiatement. Niven lève le sac, nous agitons les pistolets. La fille de Cécile, d'après Bob, a compris. c'est bon, ne tirez pas. Mais il n'y a presque rien dans la caisse. Hein. Je montre les étals. Niven secoue encore une fois le sac. La fille ouvre les tiroirs, plonge les mains, tire tout par poignée. C'est alors que je vois qu'elle tourne les yeux vers l'arrière du magasin. 3 emplacements de parking occupés. Restez là. J'ai dit cela très vite. En quelques pas, je suis à la porte, que j'ouvre d'un coup. Un jeune homme est penché sur son téléphone. Copain, collègue, je ne sais pas. En tout cas, j'entends le tremblement dans sa voix. Vite. Ils sont 3, à la galerie. Ils ont des armes, on est tout seul. 2 pas encore. Un coup sur le portable, un sur la tête, pas trop fort. Pas envie de le blesser, ou pire. Juste envie de me tirer d'ici, de ce plan foireux. On se casse, les flics. Ils ont compris. Bob aussi. Au bout du parking, 3 voitures de police. Comment ont-ils pu être là aussi vite ? Julos, non ? Cet imbécile a tiré, même pas en l'air. La fusée éclairante est partie tout droit. La réaction ne tarde pas. Niven a plongé derrière une jardinière en béton. Bob a ouvert la portière, lève les bras, en vain. Il est le premier touché, je suis le deuxième. Non, le second. Semblant sortir de la jardinière, la voix de Niven. Pour une fois, les verres conviennent parfaitement, ou presque. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. »